méditation et de Saint Augustin. Il y a des certains chrétiens qui, dans ces jours-là, entendaient former une église de purs. Et qui se distinguaient en se séparant, en voulant se séparer des chrétiens qui avaient fléchi lors des persécutions. Hors de l'église, y a-t-il le salut? Parmi ces chrétiens donatistes, l'un d'eux dit: moi, je crois que le baptême qui sauve n'est que dans l'église catholique. Hors de l'église catholique, tout est simulation. C'est la vérité, certes, il est certainement vrai que tout est une simulation, une feinte hors de l'Église catholique. Mais il faut rajouter, à condition que cela ne soit pas catholique. Or, il peut toujours y avoir quelque chose de catholique hors de l'Église catholique, comme le nom du Christ pouvait exister hors de la société du Christ. C'est en ce nom que chassait les démons celui qui ne le suivit pas avec le groupe des disciples. D'ailleurs, la simulation, la feinte, peut exister même dans l'Église catholique, et à coup sûr, chez ceux qui renoncent au monde, en parole, mais pas en acte. Pourtant, la feinte n'est pas une chose catholique. Il est donc certain qu'il peut y avoir dans l'Église catholique ce qui n'est pas catholique, et également, tout autant et aussi bien, il peut y avoir hors de l'Église catholique quelque chose qui appartient propre à l'Église catholique. La fameuse phrase hors de l'Église, point de salut. Hein? En fait, simple, on se pose des questions quelquefois bien ridicules. Il n'y a qu'un seul Dieu, Adonai Erad. Hein? D'ailleurs, quand on se tourne vers Dieu, qu'on va vers lui, qu'on vole, qu'on touche le nom d'Elohim, qu'on le pénètre, qu'il nous envahit, que l'unité éternelle de Dieu, comme un parfum, envahit toute notre vie intérieure, imprègne notre chair et notre sang. Eh bien, on est catholique. Et il y a bien des gens qui, sur toute la surface de la terre, sont catholiques. Parce que, moi, je sais pas, il me semble que il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu, énormément. Le cœur de l'homme est bon. C'est rare de trouver quelqu'un qui est méchant par lui-même. C'est assez rare. Il suffit de rencontrer les personnes humaines, les créatures spirituelles créées par Dieu. On peut facilement, avec la présence de Dieu en nous et nous, disparus dans la présence de Dieu, venir dans leur cœur, s'y installer, constater, émerveiller la justice qui est en eux, la sagesse qui est en eux. Quand je dis la sagesse, c'est-à-dire la lumière vraiment immaculée, divine qui est en eux, l'univers intérieur de Dieu, qu'ils envahissent souvent sans même qu'ils puissent en rendre compte, les vertus héroïques qui sont les leurs, les patiences. Bien sûr, hors de l'Église, point de salut. Il n'y a pas de salut hors de l'Église. S'il n'y avait pas eu Jésus sur la terre, comment est-ce que le Saint-Esprit pourrait, comme ça, de manière diffuse, continuer, quotidienne, venir envahir, surgir, mettre son huile vivifiante dans chaque cœur humain de la terre? Ce serait impossible. Bien sûr, si Jésus n'est pas envoyé, si c'est pas Dieu lui-même qui est envoyé par Dieu lui-même dans la chair pour détruire tous les obstacles et son sang répandu, comme dit l'épître aux Hébreux, j'aime bien ce passage de l'épître aux Hébreux, chapitre 10, son sang répandu, son sang, le sang précieux de Jésus. Le précieux sang de Jésus est un chemin qui ouvre directement sur la vie éternelle de Dieu, sur le ciel éternel. C'est beau de voir ça parce que quand je suis plongé, ça c'est tout à fait catholique, je suis plongé dans le précieux sang de Jésus, englouti, imprégné, imbibé, assumé. Je suis sur le chemin qui mène directement dans la lumière, au ciel intérieur de toutes les gloires et de Dieu. Et ce faisant, j'amène avec moi et avec Jésus, dans ce ciel éternel, par la foi, par la transformation de mon âme, par l'amour, la communion avec lui, j'amène avec moi la nature humaine tout entière. Et je peux avec Dieu si facilement venir marcher comme ça, au milieu, au cœur, dans l'intimité profonde de chaque être humain qui a existé, qui existe ou qui existera. Comme dit Saint Annibal de Francia. Et c'est ça la Jérusalem nouvelle de l'Église de la Terre. Et quand on peut circuler, et de fait, dans l'oraison, c'est ce qui se passe, dans la communion au mystère sacramentel, c'est ce qui se passe. Parce que je reçois, et je pénètre, et je fais resplendir chaque sacrement. Et quand j'y demeure tranquillement, je laisse Dieu opérer. L'Esprit Saint, bah, il vient visiter la nature humaine tout entière. Et il n'y aurait pas cet envoi, cette mission invisible et visible de Dieu envoyé par le Père, le Dieu vivant venant nous visiter dans le sang précieux. Ben, et bien évident, on est d'accord. Que la grâce ne pourrait pas pénétrer comme ça, librement, dans tous les êtres humains sans exception. Alors il y a ceux qui la reçoivent, il y a ceux qui la reconnaissent comme ça, d'une manière identifiée ou non identifiée, explicite ou pas, tu vois, aimer. Il y a ceux qui aiment de voir cette impulsion intérieure, qui les met dans la droiture, qui les met dans quelque chose qui signifie leur vie profonde, leur oui, dans l'aurore, leur oui, et dans l'accomplissement de la fin. Il y a une fidélité chez lui. Cette fidélité, elle vient de la grâce, elle vient des sacrements. Elle vient des sacrements, même s'ils sont très loin. Et donc, effectivement, s'il n'y avait pas Jésus, s'il n'y avait pas l'Esprit Saint, s'il n'y avait pas les sacrements, s'il n'y avait pas dans les sacrements ceux qui en use pour emporter toute la création à l'intérieur de Dieu, en s'appuyant sur leur adhésion intérieure libre, Ben, s'il n'y avait pas les sacrements, c'est évident. Les hommes ne seraient pas sauvés. C'est ce qui est réconfortant, hein, quand on assiste à une messe, quand on reçoit une absolution. C'est réconfortant, c'est vrai. Parce que on sait très bien qu'en faisant, en suivant Jésus comme ça, substantiellement, c'est-à-dire réellement, comme dit saint Augustin, sans simulation, sans ces hypocrisies, sans feinte, on sait très bien que si on ouvre largement toutes les portes de notre chair, de notre sang, tous les récepteurs et diffuseurs spirituels qui sont en ce déploiement extraordinaire dans toute l'anastase du Christ, pour redescendre dans toute la nature humaine, on sait très bien que quand on vit un sacrement, il se prolonge, il rayonne, il surabonde. Je crois que c'est une prière orthodoxe, celle qu'on dit après l'évangile, hein, que cet évangile resplendisse, surabonde sur toute la surface de la terre et pénètre chaque chair humaine, dont l'âme est largement ouverte à la présence de la grâce, pour qu'ils appartiennent personnellement à l'évangile, c'est-à-dire à la mission invisible du Verbe de Dieu, dans son ascension à la droite du Père. Ils sont incorporels. Alors du coup, ils vont pouvoir voir de leurs yeux, de cette terre, de quoi dire oui, de quoi rentrer dans la justice, dans la justification, l'ajustement à Dieu, l'ajustement au prochain, dans la famille de Jésus, Marie, Joseph, explicite. Et je suis tout à fait convaincu, moi, que le disciple de Jésus qui vit pas des sacrements est un menteur. Il y a une feinte quelque part. Il y a quelque chose qui fait que il n'est pas le Saint Joseph nouveau de la terre nouvelle. Il faut, il me semble. Comment dirais-je, méprisé, enfin, du mais non, être pratiquant, pas pratiquant, c'est pas grave, être. Mais non, c'est. Et non, non. Non, 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 c'est pas une petite chose. C'est pas une petite chose. Que ce que Jésus fait, quand il disparaît, il monte à la droite du Père, il disparaît à nos yeux, et de là où il est monté, il diffuse tout ce qu'il est, à travers les sacrements. C'est pas autre chose. Tout ce qu'il est, c'est à travers le sacrement. Bien sûr, avec Dieu le Père. Et bien sûr, il va envoyer l'unité du Père et du Fils, le parfum odoriférant de la sponsalité de l'un, la sponsalité de la nuptialité incréée de l'un. Parce que Dieu est un, de Nanaïrad. Mais quant à lui, il donne tout ce qu'il est. Quand il s'assied à la droite du Père, il s'enfonce à ce moment-là dans la présence créatrice, amoureuse et éternelle de Dieu. Et à travers les sacrements, eh bien, jusqu'à la fin du monde, il est là. Et il diffuse cette fécondité catholique qui va jusqu'à la Jérusalem Noël et qui va jusqu'à l'embrasement séraphique, où s'étreignent dans la féminité incréée de Dieu, la Jérusalem glorieuse du ciel éternel, la Jérusalem nouvelle de l'Église accomplie dans le fruit de tous les sacrements qui ont existé, qui auraient pu exister, qui auraient dû exister. Cette rencontre prodigieuse, dans la sponsalité, dans la nuptialité de la très sainte Trinité, dans l'unité profonde de Dieu, fait que c'est Jésus qui agit par son corps mystique vivant, par la réalité. Et si on passe pas par la réalité, et qu'on passe uniquement par une espèce d'énergie, eh ben, qui fait du bien, c'est évident, qu'on ne méprise pas, enfin, quoi que ce soit. Si on passe pas par la réalité, on risque, on perd la sagesse, ça c'est sûr. Et si on perd la sagesse, ben on perd la source du Christ, la source des sacrements, on perd la source de la création, on perd la source de tout amour, on perd la source de toute fidélité, on perd la source de toute grâce immaculée. Par exemple, vous prenez par exemple la personne, enfin le cœur, la vie intérieure de la Sainte Vierge, de Marie. Aujourd'hui, maintenant, c'est la maman. Voilà. Dans l'Eucharistie, infailliblement, depuis 277 jours, c'est la maman. C'est 277 jours. Parce que j'ai trouvé ça très très joli. Quand la Vierge a signifié que, voilà, quand elle sera mère de Dieu sous l'autorité de l'Église, alors à ce moment-là, vous pourrez dire maman. Quand vous direz maman, c'est moi qui engendre. C'est moi qui serai, vous s'adresserez à moi, présente en cet instant, engendrant dans tous les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant, la divinité hypostatique du Verbe de Dieu en vous. Mère de Dieu, elle a fait engendrer le mouvement du respectus du Verbe vis-à-vis de l'incarnation, ce mouvement de Dieu, qui pourra dire prolonge les processions incréées de Dieu vers elle, qui est une créature. Elle engendre ce prolongement incréé des processions incréées de Dieu, la procession d'amour, émanant de l'amour, la procession de la lumière, engendrée par la lumière. Ces deux-là. Et demain, pénètre dans la création, dans le Bereshit. Ce mouvement du respectus, du regard internel et incréé de Dieu, jusque dans la création. Ce qu'il y a de plus haut dans les existences spirituelles, c'est-à-dire Dieu, et ce qu'il y a de plus bas dans l'existence spirituelle, c'est-à-dire le premier moment d'un être humain créé, se conjoignent pour faire un seul être. Et ça fait Jésus. Elle a engendré la tête, elle a engendré Jésus, elle a engendré le Verbe, considérant la création pour venir s'y inscrire. Elle a engendré l'union hypostatique du Verbe avec la création. Elle a engendré le respectus du Verbe vis-à-vis de l'incarnation. Ah, c'est Marie, Mère de Dieu. Petit catéchisme sur Marie, Mère de Dieu. Alors pour ça, bien sûr, il a fallu que, lorsqu'elle a embrassé, elle m'a pris sur elle, rendre à l'intérieur d'elle, en y adhérant, en les faisant pénétrer dans les immenses profondeurs, dont la vastitude d'ailleurs était engendrée elle-même par les privilèges de son Immaculée Conception. C'est éperdument. Elle a assimilé cette nourriture délicieuse, incrée de Dieu, la volonté de l'amour, la première personne de la Très Sainte Trinité envoyée, exprimée par le Verbe de Dieu. Aussitôt, dans cet océan, il y a une supervenue, superveniette, inté, à l'intérieur d'elle, une supervenue du Saint-Esprit dans son âme. Ça a déployé cette vastitude jusque dans la substance sacrée de Dieu. Et dans la substance sacrée de Dieu, elle a rejoint ce que Saint Joseph, son époux, avait spiré de l'intérieur, de la nature divine elle-même, de la première personne de la Très Sainte Trinité. Elle en a été immédiatement obombrée, récapitulée. Une petite goutte de sang va qui contenait et qui a contenu les processions, a créé de la très sainte Trinité dans l'unité, le Erad de Dieu. Elle n'a pas fait ça toute seule, il a fallu cette supervenue du Saint-Esprit, et il a fallu l'obombration du Père dans le monde incréé éternel de Dieu. Elle a disparu du temps et elle s'est éperdument, elle a été éperdument assumée dans l'éternité incréée des processions sacrées de Dieu, des hypostases et de l'unité de la nature de Dieu. Et là, du coup, Dieu, le bien, qu'est-ce que tu veux, il se communique en se donnant, hein, donc quand Dieu a tout donné ce qu'il avait, et réciproquement, et donc dans cette réciprocité du oui, devenu incréé de Marie, elle a engendré un oui incréé, jusque dans la nature incréée de son oui créé, mais parfaitement divin. Elle a engendré. Et là, nous, c'est le 277e jour où nous proclamons de manière eucharistique, substantielle, réelle, vivante, féconde et efficace. Cette maternité de Dieu, non seulement vis-à-vis d'elle et de ce prolongement, cette venue, cette incarnation des processions, de la splendeur sponsale du Verbe de Dieu, de la féminité, d'une Jérusalem absolument parfaite. Pas seulement Jésus, c'est pas seulement Jésus. Ça, c'est Mère de Dieu, qui a un fruit dans le monde créé, c'est Jésus. Sa maternité divine, c'est pas seulement le fruit dans le monde créé qui est Jésus, c'est surtout le monde incréé de son assomption comme mère de Dieu. Elle engendre un mouvement éternel en Dieu. Bon, eh bien, voilà, le 21 mai de l'an 2018, 277 jours après, c'est aujourd'hui. Le 27 février, c'est beau ça, 3 fois 9. 9, 9, 9. 3 fois 9, ça c'est 9, 9, 9, c'est... Il y a des chiffres comme ça extraordinaires, c'est vrai. Il y a 888, 222, 333. Dès que vous voyez ces chiffres, vous dites... Ah, ouf, là, vous... 999. C'est l'obombration du Père. Lorsqu'il voit le supervenu du Saint-Esprit dans l'âme parfaite de la Jérusalem Noël, dans les trains de la Jérusalem glorieuse, dans le baiser du véritable amour, qui est l'expression du côté du monde incréé, dans le monde créé, de l'Église, enfin, de l'ultime fécondité de Marie. Elle est mère de Dieu, mais elle est aussi mère de l'Église. Comme ça, on le sait depuis longtemps qu'elle est mère de l'Église. C'est pas nouveau qu'elle soit mère de l'Église. C'est pas un dogme, d'ailleurs, en plus, pas encore. C'est une proclamation. C'est une proclamation du Concile. Mais c'est une expression impérative de l'infaillibilité pontificale dans l'Eucharistie. Et une ouverture de toutes les portes, depuis le monde incréé de l'Assomption, de Marie dans la paternité incréée de Dieu. C'est l'expression de l'ouverture des portes, de la venue de cette fécondité jusque dans les membres vivants de toute l'Église. Ce qui a été donné donc à la nature humaine de Jésus, dans son hypostase de Verbe de Dieu, d'épouser finalement, dans l'union hypostatique, nous est donné mystiquement, sacramentellement, réellement, lumineusement dans le fruit du sacrement, ces trois blancheurs de se conjoignent dans le Erad de Dieu et la fécondité du sacrement de l'Eucharistie. Et c'est le 277e jour. L'infaillibilité pontificale se conjoint à la fécondité eucharistique et à la maternité divine de Marie sur chacun d'entre nous, parce qu'on est catholique. C'est bien de dire à ce moment-là, hors de l'Église, point de salut, parce qu'on commence à s'approcher du terme, de la cause finale, de l'accomplissement en plénitude reçue de tout. C'est là où je vois que je rends grâce, je suis plein de gratitude, moi. Je dis merci au bon Dieu que je ne sois pas protestant. Mais ça ne veut pas dire que le protestant n'est pas catholique. Peut-être qu'à l'intérieur, il vit ça. À ce moment-là, il est catholique. Et s'il vit ça, c'est à cause de ceux qui en vivent dans l'Église catholique, parce qu'ils reçoivent la grâce de Dieu telle que Dieu la donne aujourd'hui, dans l'instant présent. C'est quand même quelque chose de... Oui, ça fait au fond à peu près... Ça fait... On termine aujourd'hui quelque part le 7e jour de la naissance de cette grâce de Dieu dans l'Eucharistie, sur la maternité divine de Marie, jusque dans notre chair, dans tous les membres vivants de Jésus. C'est, je suis d'accord que c'est possible, et en fait j'en sais strictement rien, qu'il n'y a pas beaucoup de fidèles sur la surface de la terre qui vivent ça à fond, à chaque messe, depuis 277 jours. Je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Mais il faut qu'il y ait le roi. Il faut qu'il y ait ce royaume de l'acquiescement et de la réceptivité vis-à-vis de la grâce de la Jérusalem dernière. Il faut qu'il y ait cette grâce joannique, toute simple, identifiée totalement à la médiatrice de toutes les grâces. Il faut que ça vibre, ça transforme, ça illumine, ça vivifie toute la matière vivante de notre chair, mais aussi toute la matière inerte de notre rayonnement dans le monde et l'univers, rayonnant jusqu'à l'anastase. Parce que tout ça, ça rayonne non seulement dans notre univers, mais ça rayonne et ça pénètre jusque dans l'instant, c'est-à-dire le monde qui est au-delà de l'univers, on appelle le monde de la résurrection, de la chair. Et même, ça pénètre plus avant encore, dans la divinité hypostatique qui nous assume, depuis ces 276 jours. Ça pénètre évidemment dans le monde incréé, donc le monde créé, pénétré du monde incréé, peut glorifier le monde incréé. Par le monde incréé, uni dans l'unité, l'indissolubilité du monde créé, mais accompli, et pleinement habité. C'est ça le mariage. Alors, on est très content de savoir qu'il y a plein de musulmans, plein de bourreaux, plein de bouzous qui ont la visite de Jésus, du Sacré-Cœur, chaque nuit. Moi, j'en ai vu plusieurs qui me l'ont dit. Et oui. Et puis, ils sont drôlement contents. Et ils savent très bien que Jésus est le chemin, la vérité, l'expression de Dieu quand Dieu nous parle, et l'obéissance d'amour éternel du Saint-Esprit. Ils le savent très bien. Ils en sont conscients quelque part. Ils en vivent, ils sont peut-être plus catholiques. Ils sont catholiques, ceux-là, évidemment. Alors, saint Thomas d'Aquin, il va dire la chose d'une manière différente de saint Augustin. Il va dire le fait que on reçoive Jésus, qui est l'unique chemin dans son très précieux sang, et dans la foi, la fécondité de l'Église accomplie en plénitude reçue, fait que, par notre grâce, la sainteté de la grâce sanctifiante augmentant continuellement jusqu'à l'accomplissement des temps, cette grâce nous plonge jusqu'en nos racines et aussi en notre cause finale, en notre accomplissement incarné, nous plonge et nous fait subsister dans le Verbe éternel de Dieu. La grâce catholique, c'est la subsistance lumineuse, réelle et vivante dans la personne du Verbe de Dieu. Je subsiste dans le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu se manifeste dans le Christ Jésus. Moi, qui suis son disciple, eh bien, par la grâce sanctifiante, pour ça, il ne faut pas être en état de péché mortel, par la grâce sanctifiante, je suis plongé, englouti, enraciné, selon un mode substantiel. Je subsiste dans le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu fait subsister mon existence de manière lumineuse et vivante. Les mots du catéchisme et de la foi sont extrêmement importants. La substance, c'est une propriété de la substance. Parce qu'il y a quelque chose dans l'existence de Dieu et dans notre existence qui est lumineux. C'est la forme même. Incréé, créé à la fois, l'ousia, la substance. Donc quand on dit qu'on subsiste formellement et mystiquement dans le Verbe de Dieu, et que c'est une subsistance, on dit que c'est de l'ordre de la substance. Parce que la subsistance est une propriété de la substance. Comme dit Aristote. Comme quoi, voilà un païen, c'est pas loin du royaume de Dieu, l'air de rien. C'est vrai. Mais de savoir cela, que je subsiste dans le Verbe de Dieu, assis à la droite du Père, dans mon existence et dans ma lumière, m'établis comme disciple de Jésus, et comme cause, source et principe instrumental de la glorification de toutes les gloires de chacune des personnes divines. Voilà ce que le Saint-Père a décidé, que c'était l'heure d'y rentrer en pleine lumière, en pleine connaissance. Et là, c'est le septième jour depuis la naissance. Il y a eu 9 mois, et le 278, 3 fois 9, 27, le 270e jour, c'était il y a 7 jours, et là, voilà, on arrive au 7e jour. On a fait tout ce qu'on a pu pour vivre de ce Noël de la Jérusalem dernière apparaissante, et là, le 7e jour, Dieu se repose de ses œuvres, et il voit que cela est bon. Il donne son acquiescement de sa volonté incréée. Il ouvre les bras et il fait tout le reste. Les temps vont s'ouvrir. Je suis très étonné de voir le pape François, parce que sa première encyclique sur l'évangélisation, il dit, voilà, bien sûr, on voit que le monde ancien, ça marche pas, quoi, Donc il va sur les périphéries, et dans les périphéries, il rebondit des périphéries pour aller dans évangéliser les nostalgies, c'est-à-dire évangéliser ce pourquoi nous avons dit oui, ce pourquoi Dieu a dit oui en écrivant, c'est pourquoi Marie a dit oui, pour former la glorification, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde n'existe. Ces trois oui qui s'associent comme ça dans un seul. Un fruit de l'Eucharistie. Et il dit, en disant ça, on met désormais la priorité au temps, sur l'espace. Ça a l'air de rien de dire ça. Mais ça veut dire que l'évangélisation de l'Église sur les périphéries rebondit cette fois-ci vers l'ouverture des temps. Tandis que jusque-là, pendant 2000 ans, eh ben, l'évangélisation, c'était l'espace. Il fallait conquérir les nations, le monde, les multitudes. Parce que maintenant, l'église de la contrainte. Elle tient dans ses mains la fécondité effective de la grâce pour l'ouverture du temps. Chaque instant présent, tu te rends compte, dans la subsistance du Verbe nous appartient, pour que chaque instant présent soit lumineux, comme une espèce de nervure lumineuse, vivifiante, flamboyante. Et nous rentrons, nous pouvons rentrer dans chaque instant présent. Jusqu'à ce que le nombre soit atteint. Tu t'en rappelleras, la grâce, c'est la subsistance dans le Verbe de Dieu. Je subsiste. La grâce catholique, c'est ça. Je subsiste dans le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu, il s'efface de manière spensale dans l'époux, la première personne de la Sainte Trinité, avec tout ce qu'il est. Alors, il y a la procession de la lumière qui se mêle en tout être de vie et de lumière à la procession du Saint-Esprit, c'est-à-dire à l'accueil et à Dieu reçu comme paraclet. Et ça, c'est nécessaire. C'est de nécessité de foi. Parce qu'il y a le psychosime et ce même. Et le fait d'avoir ouvert, déchiré le voile de la vulnérabilité du monde d'amour total de la première personne de la Très Sainte Trinité dans le monde créé, de la matière ouverte pour la vie, rend nécessaire qu'il y ait l'envoi du paraclet. C'est nécessaire. Préalablement, il faut l'ouverture des temps. Et il faut la Pentecôte de l'Immaculée Conception dans toutes les conceptions humaines, dans la nature humaine tout entière. C'est ce que produit l'ouverture du temps. Et ça, c'est l'œuvre de l'Église catholique. C'est l'œuvre, il n'y a qu'un seul chemin. Une seule vérité. Une seule vie. Un seul Dieu et Père. Alors tu comprends ce qui se passe dans nos familles, dans nos ronds-points, dans nos paroisses, dans nos troubles, dans nos déstabilisations. Monsieur Pogre, ça c'est l'opacité de la matière, c'est... Mais dans la matière, il y a quelque chose de sublime. C'est qu'elle est récepteur et diffuseur de tout ce qui existe. Et elle peut l'être en tout ce qui existe en Dieu. Le Sacré-Cœur de Jésus peut, dans ses membres, rayonner. Non seulement le monde, mais les personnes que nous venons visiter intérieurement. Les enfants, chaque enfant avorté, on va les visiter. Chaque nuit, on va visiter chaque enfant avorté. On rentre à l'intérieur de la demeure intérieure de leur âme. On dépose la vie divine de Jésus en eux. On intensifie leur sainteté dans l'ouverture des temps. C'est notre plus grande gloire, mais aussi on pénètre l'anastase. C'est à cause du corps spirituel qu'on a cette capacité-là. Et le Sacré-Cœur de Jésus se répand par rayonnement. Et ce rayonnement est bien reçu. Hein. Faut pas t'inquiéter. Il est reçu. Et tous ceux qui le reçoivent sont catholiques. Mais il y a une exigence, un appel, tu vois. Une invitation intense de rentrer dans le monde nouveau, de dire oui à ça. Les catholiques doivent dire oui à ça. Le monde nouveau, ils doivent l'étreindre, pénétrer dedans, l'embrasser en entier, dans la subsistance de l'épousa, de l'épouser, de la responsabilité en elle-même, dans la créée et dans le monde parfait et divin, du créé dans la créée, du créé dans le créé. toutes les communications sont rétablies entre Dieu et nous. Dans cet admirable exercice. Alors, je ne sais pas de quoi sera fait demain, le huitième jour de la naissance du Noël glorieux, pour l'ouverture des temps, pour sa préparation, pour son germe, je veux dire. Mais je compte chaque jour. Le ciel compte chaque jour. Le ciel est suspendu à cette unité indivisible, l'indivisibilité divine des noces de l'agneau, entre cette noce de l'agneau d'aujourd'hui et les noces de l'agneau du 7e saut de l'Apocalypse, du 6e saut de l'Apocalypse. Il y a un chemin dans lequel on doit rentrer, qu'on doit percevoir comme un rayon laser, et parcourir dans le rayon laser ce chemin, cette ligne pure, entre l'Eucharistie d'aujourd'hui qui est l'Eucharistie du germe de la Jérusalem nouvelle, et les noces de l'agneau, l'Eucharistie dernière, du 6e saut de l'Apocalypse. Il y a un flux, un reflux, un parcours, un vol libre, avec les deux êtres dans la subsistance du Verbe de Dieu. De là jusqu'à nous, et de nous jusque là. C'est là qu'on s'inscrit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et lorsqu'on le voit, ça, lorsque c'est lumineux devant nos yeux, lorsque c'est vivant dans notre élan intérieur, eh bien on peut rendre grâce à Dieu pour dire, moi, c'est pas que je sois supérieur aux autres, parce que, mais je suis quand même heureux d'être là. Et j'en remercie, bon Dieu. Bon, je pourrais être plus haut encore, bien sûr, je suis d'accord. Je pourrais être très loin derrière encore. Ça revient au même, je veux bien. Mais je suis heureux d'être là où Dieu m'a posé, là où Dieu m'a mis. Parce que ce qu'il me donne, dans la Jérusalem nouvelle qui apparaît, il reste que quoi? Un dernier voile. Eh bien, il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de saints, beaucoup, 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 qui auraient bien aimé être à notre place. Pour pouvoir prendre cette part dans le mariage accompli de la Jérusalem bénie. Voilà. Donc on ne lâchera pas le manche. Hein. On reste. Hein. On continue. Hein. On va y aller. Hein. On fonce. On vole librement. C'est pas nous. Hein. On est des instruments. C'est Dieu qui le fait. C'est la Sainte Vierge, l'Immaculée, la Mère. Elle engendre le monde divin, incréé de Dieu, dans le monde créé, notre grâce, en la subsistance du Verbe de Dieu. Voilà les paroles exactes. C'est important de connaître les paroles exactes, tu vois, parce que les paroles exactes de l'Église, elles viennent du ciel, portées par l'Esprit Saint, de la mission invisible du Saint-Esprit dans l'âme de l'Église tout entière, une catholique et sainte. Et c'est par là. Et donc, c'est des paroles qui réalisent ce que signifie. Donc si je maintiens ces paroles, que je les pénètre, que je les fais descendre, elles réalisent ce qu'elles signifient. Et elles me transforment, elles transforment ma vie intérieure, ma lucidité. À ce moment-là, j'ai épousé la sagesse créatrice. Et on est dans la première lecture. Celui qui épouse la sagesse créatrice a tout épousé, a tout reçu. C'est lui rend un culte. C'est à Dieu qui le rend un culte. Parce qu'elle est conjointe, la maternité divine de Marie. Elle est dans le principe. Dans le récit de la création. Mais elle est surtout dans la cause finale de son assomption, de sa fécondité éternelle. C'est pour ça, hein, tu vois, que Je ne veux pas y revenir tout le temps, mais les protestants, ils me font de la peine. Dis, mais vous en dites trop sur Marie. Laissez tranquille, c'est de la mariolatrie. Ils me font de la peine. Vraiment. Vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que je ne comprends pas qu'ils ne puissent pas comprendre s'ils aiment Dieu, s'ils aiment Jésus. C'est, je sais pas. Je ne comprends pas. J'avoue, je ne peux, j'arrive pas à comprendre. Mais si on a un minimum de vie contemplative, de mystique, si on a un minimum de grâce sanctifiante, et qu'elle ne cesse d'augmenter, ça devient évident. Mais grâce à Dieu, je me console parce que je sais que dans très peu de temps, mais très très peu de temps, le temps va s'ouvrir et Dieu va permettre qu'il y ait comme une reprise de notre conception, de notre conscience dans la liberté du don, de notre innocence divine, toute, qui aurait pu être sainte, dans la réception de toutes les grâces contenues à l'intérieur de l'âme de l'Immaculée Conception. Cette Pentecôte de l'Immaculée Conception, dans toutes les conceptions humaines, vont se dérouler comme un tapis de lumière, le diamant lumineux, palpitant, divin, devant nous pendant une demi-heure. Ah ben, les protestants, ils sont tous catholiques à ce moment-là. Ils le sont déjà. On ne peut pas les empêcher d'être catholiques. On ne peut pas les empêcher de participer comme membre vivant de Jésus vivant au déploiement de la béatitude éternelle. Cependant, puisqu'il s'agit maintenant d'ouvrir les temps, c'est vrai, il nous reste peu de temps. Donc moi j'engage toute la terre, tout le purgatoire, tout le monde angélique, et chaque enfant dans la demeure duquel j'ai pu naître, j'engage chacun. À une fidélité brûlante dans tous les jours qui viennent pour que se réalise la volonté de Dieu. Et que la subsistance dans le Verbe de Dieu de chacun, à la mesure de l'Immaculée Conception, se fasse dans la Sainte Famille, dans la réceptivité, dans le fait de recevoir l'hypostase vivante, lumineuse, embrasée, substantiellement passive et agréée du Verbe, du Saint-Esprit de Dieu, du Paraclet. Ceux qui l'auront reçu. Ils seront sauvés. Ils seront les instruments mêmes de la Jérusalem. De l'ouverture des portes de la Jérusalem nouvelle vers la Jérusalem glorieuse. Et c'est cette ouverture des portes qui ouvre un abîme sous les pieds de l'Antichrist qui fait qu'il disparaîtra. Et ça, ça se fera en moins de 10 minutes. Le combat eschatologique a commencé. Et là, on est mobilisé. Hein? Vous n'êtes pas venu pour rien, vous êtes venu pour entendre ça.